Bah écoute, bonjour Jeff, bienvenue. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux gens?
Alors, me présenter. Je m'appelle Jeff Aérosol, mais ce n'est pas le nom qui figure sur ma carte d'identité, comme vous l'aurez peut-être deviné. Quoique Jean-François, ça devient souvent JF ou Jeff. Et oui, mon papa s'appelle Jean, ma mère Françoise. J'ai beaucoup de chance, il se serait appelé Édouard et Eulalie, ça aurait été moins facile. Et aérosol, parce que j'utilise la bombe aérosol, qui est mon outil de prédilection depuis maintenant 31 ans. J'ai commencé à utiliser la bombe aérosol en 82. Mais avant ça, j'ai fait des images avec des plumes et de l'encre de Chine. J'ai détourné les photocopieurs, j'ai fait du Polaroid, j'ai fait des collages, j'ai peint à l'acrylique. Enfin bref, j'ai bidouillé les images depuis tout jeune, déjà dans les marges des cahiers, comme on dit parfois. Et puis j'ai fait beaucoup de musique également. J'ai également été enseignant. Je suis né à Nantes, donc dans les années 50, en 57. Donc j'ai souvent coutume de dire que je suis né en même temps que le rock'n'roll, à une ou deux années près. La guitare électrique a été inventée en gros en 55. Enfin bref, j'ai eu 10 ans l'année du Summer of Love, l'été de l'amour et la naissance du mouvement hippie en Californie. Et j'ai eu 20 ans en 77, une autre révolution, celle-ci punk. Donc tout ça m'a évidemment constitué, fabriqué, forgé. J'étais très influencé par tout ça. Étant à Nantes, dans cette petite ville de province, j'ai beaucoup rêvé d'ailleurs. Et j'y suis parti grâce à la musique, à la littérature, au cinéma et aux images. Et puis, j'ai fait des images moi-même, j'ai fait de la musique moi-même. Évidemment, tout ça, mes images sont nourries de toute cette période. Et alors, on me dit parfois, mais c'est très nostalgique, très passéiste, tout ça. Effectivement, j'ai tendance à être toujours tourné vers l'avenir et à nourrir des projets qui eux-mêmes se nourrissent de ce que j'ai vécu avant et ce qui s'est passé, en particulier dans ces années effervescentes que furent les 60s et les 70s. Voilà, pour résumer. Mais plutôt que de parler davantage, moi je trouve que c'est plus intéressant de vous écouter si vous avez des questions. Je me suis présenté brièvement. Après, il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle Parcours fléché, 30 ans de pochoir. Pourquoi Parcours fléché? Parce que ma deuxième signature, c'est cette petite flèche rouge qu'on trouve sur toutes mes images. Et puis, ce bouquin, bon, disons que j'avais déjà sorti chez Alternative en 2007 un autre bouquin qui s'appelait VIP, Very Important Pochoir. Et puis un autre récemment qui s'appelait Risque de rêve aux éditions Critères dans la série Opus Dei. Et celui-là est plus important et c'est un résumé de ces 30 ans, 30 ans de pochoir. Bon, j'espère que ce n'est pas fini. Si je suis encore là dans 30 ans et qu'on peut sortir un deuxième parcours fléché, ce sera bien. Donc dans ce bouquin, il y a une sélection d'images, bien sûr, des photos. Il y a davantage de photos de la deuxième partie, je dirais, de ces 15 dernières années, parce que en 82, on avait des Instamatic pourris, on ne pensait même pas à faire des photos. Et puis nettoyer les vieux clichés argentiques sur Photoshop, c'est sympa, une journée, deux, mais au bout de trois, on en a un peu marre. Et puis c'est pas la peine de donner trop d'images. Disons que ces images-là sont des témoignages de cette époque-là, mais elles ne sont pas d'une qualité suffisante pour en faire tout un bouquin. Donc on a panaché. Il y a des textes. J'ai eu la grande chance qu'un certain nombre d'amis m'écrivent des petits mots dans le bouquin. Donc ça va du regretté Gilles Verlan à Amélie Nothomb, en passant par Charlie Lee Couture, Elliot Murphy, Padovani, Jean Daniel, Jean Daniel Beauvallet des Arocs, enfin bon bref, des amis comme ça, des galeristes. Directrice du musée de Saint-Cloud, aussi avec qui j'ai travaillé. Et puis je suis à Bordeaux, voilà, à cette occasion. Il faut quand même que je dise merci avant de vous laisser la parole. Je dis merci à Pierre, déjà, parce que c'est grâce à lui que je suis ici. Et puis merci à tous les instigateurs, tous les gens qui travaillent pour Keep Abreast et les Révolutions Roses. Je suis en train de peindre, là j'ai laissé mes acolytes en haut de la nacelle au CHU Pellegrin, où je suis en train de faire une grande fresque à l'entrée de l'hôpital. sur un mur de parking qui fait 15 mètres de haut. Et là, donc, on est content parce qu'il fait très beau. Et on est en train de peindre. Enfin, vous verrez ça si vous y passez, puis également sur Internet, puisque tout ça est très relayé. Et donc, merci à tous ceux qui m'ont permis de passer cette semaine ici. Un accueil très chaleureux, des gens très sympas. Et puis, je suis ravi d'être... de faire votre connaissance aussi. Voilà. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de ça, puisque Banksy défrait la chronique avec ça. C'est déjà arrivé à Londres, pas des murs, mais des palissades en bois, des maisons. Je travaille beaucoup sur des maisons murées, des choses comme ça, disons barrées avec du bois. Donc, le bois, c'est facile à enlever, plus facile que les murs. Donc ça m'est déjà arrivé, il y a un type qui, on colle aussi parfois dans la rue, à Londres il y a un type qui il y a quelques années s'amusait à décoller nos travaux, à les recoller sur des beaux papiers canson, à les vendre sur eBay, Et ça arrivait à mon ami Christian aussi, c'est 215, alors après vous savez, disons que les gens qui ne... Il y a deux choses, pour moi l'art, le street art c'est la rue. L'art urbain, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, ma peinture, je la peins en ville aussi bien qu'à la campagne. Ce n'est pas tellement ça le problème. Les étiquettes, il en faut toujours. Le graffiti, il y a beaucoup de gens qui me disent « Alors, vous taguez toujours ?» Parce qu'en France, il y a un verbe qui est né, par erreur totale, par amalgame, parce que ce n'est pas facile non plus pour les gens qui ne sont pas là-dedans de comprendre. Pour beaucoup de gens, le verbe « taguer » veut dire « pulvériser de la peinture grâce à une bombe aérosol ». Alors que ça n'a rien à voir. C'est un peu plus rapide que de dire à chaque fois pulvériser de la peinture grâce à une bombe aérosol. Je vous le concède. Mais le tag en anglais, c'est un label, une étiquette, si vous voulez. Donc, initialement, c'était à New York. Enfin, vous connaissez tous l'histoire. Ces gens qui ont commencé dans les années fin des années 70, dans les années 70, à marquer au marqueur ou à la bombe. On était vraiment les bombes aérosol naissaient juste ou presque. Marquer des choses sur les murs qui correspondaient à leur numéro de rue, un blaze qui s'inventait, le bloc. Enfin bon, c'était très, très obscur et incompréhensible pour les gens qui n'étaient pas dans leur cruise, dans leur gang, qui n'habitaient pas le même bloc ou le même quartier. Ça, c'est le tag. Ça a évidemment essaimé, ça a dépassé les frontières de New York et des États-Unis pour arriver chez nous et puis dans le monde entier. Et ça s'est assorti du phénomène le graffiti. Les gens qui faisaient non pas des tags, mais des pièces, qu'on appelle des pièces, pieces, et qui sont des grandes choses sur les murs, qui parfois sont juste des lettrages très simples, des flops, comme on dit, ou qui peuvent être beaucoup plus sophistiqués. Mais moi, je ne viens pas du tout de ça. Et si je devais définir une lignée, disons, à laquelle qui m'a influencé, à laquelle je pourrais prétendre appartenir, ce serait beaucoup plus français, beaucoup plus européen, et ce serait davantage l'art in situ d'Ernest Pignon-Ernest, les choses que Gérard Zloty Camien a fait à Paris dans les années 60, ou ce qu'un Hollandais du nom de Hugo Kagman a commencé à faire en 77 à Amsterdam, des pochoirs dans la rue. Aux États-Unis, c'était du freehand, c'était à la bombe libre, comme ça, c'était des lettrages. Tous ces gens-là prenaient des blazes, des noms très impossibles à retenir. D'ailleurs, encore aujourd'hui, savoir faire la différence entre, je sais pas qui, moi, Lady 17, Taki, machin truc chouette, on finit par savoir, mais on s'en souvient pas. Et les lettrages, à l'époque, je me souviens, je trouvais qu'ils se ressemblaient tous, et puis j'arrivais pas à comprendre très bien. Alors, c'était très, très beau, il y avait des calligraphies magnifiques, des couleurs, etc., une maîtrise de la bombe extraordinaire. Mais je me disais, pourquoi faire ? Ils veulent toucher qui ? Comment ? C'était très mystérieux pour moi. Donc, je n'appartenais pas à ça, parce qu'en plus, c'était associé à cette culture hip-hop qui est née à l'époque. C'est la nation hip-hop créée par Afrika Bambaataa, etc. Ça m'intéressait d'un point de vue vraiment d'ethnologue ou d'observateur, mais je ne me sentais pas appartenir du tout à ça. Ces images-là ne me parlaient pas. Et puis, il y avait le rap, il y avait tout ça. Et moi, j'étais plus dans, je viens du rock'n'roll, du folk, de ces musiques-là, mais pas du tout du rap. Et j'adore les musiques afro-américaines, mais c'est davantage la soul vintage. Et c'est plus Otis Redding et Aretha Franklin et ces gens-là. Donc, l'amalgame en France, c'est fatal, même outil, la bombe aérosol, même support, les murs des villes. Donc, amalgame facile et évident. Mais ce qu'on faisait, c'était, dans les années 80, des gens comme Blake Lerat, comme Marie Rouffet, un petit peu plus tard Mystique, puis Nemo, les Moscos, puis encore plus récemment, C215, etc. C'est très figuratif. Le pochoir, la plupart du temps, il a un côté un petit peu photoréaliste aussi. Et en ce qui me concerne, et en ce qui concerne tous ceux que je viens de citer, l'objet, le but de notre démarche, c'était avant tout un travail de plasticien et visant à toucher tout le monde. Ce que je trouve intéressant, c'est justement avec un outil qui, à un moment donné, était nouveau, branché, qui bravait les interdits, parce que c'était, on travaillait sur les murs des villes sans autorisation, et encore aujourd'hui, c'était de réussir, grâce à ça, à toucher quand même tout le monde, c'est-à-dire aussi bien la petite dame qui va acheter son pain le matin, qui passe devant le pochoir quotidiennement. Ce que je fais, c'est pas un truc branché, c'est pas élitiste, c'est pas spécialement pour une tranche particulière de population. Ce qui m'intéresse dans la création artistique, quelle qu'elle soit, c'est l'émotion, et elle doit être atemporelle et universelle, à mon avis. Voilà, comme la musique, comme tout ça. Donc pour résumer un petit peu, voilà, je ne sais plus quelle était la question, je digresse et je parle beaucoup, n'hésitez pas à me couper. tout ça pour dire qu'en gros, les gens qui n'ont pas compris que l'art de la rue, il est dans la rue, qu'il perd toute valeur dès qu'il n'y est plus, mais qu'en revanche, ce qu'on présente dans les galeries, ce avec quoi je gagne ma vie, mes toiles, ce n'est pas du street art, ce n'est pas parce que j'utilise le même outil. C'est-à-dire qu'un type qui fait la manche à la terrasse d'un café, il fait la manche à la terrasse d'un café avec sa guitare. Si le lendemain, il est sur scène, il est sur scène. Si le surlendemain, vous trouvez son album et qu'il a passé un mois en studio et que vous trouvez son album dans un bac chez un disquaire, c'est un disque, encore autre chose. L'un n'empêche pas l'autre, mais ça n'est pas la même chose. Donc, je réponds à plusieurs questions en même temps. C'est-à-dire que les gens qui veulent s'accaparer des murs pour les vendre aux enchères, ils s'intéressent davantage à l'argent qu'à l'art. Ils le font la plupart du temps sans l'avis de l'artiste. C'est quand même bon. Dans le cas de Banksy, il a dit lui-même qu'il s'y opposait. Je réponds en même temps à la fameuse question que certains auraient peut-être eu envie de me poser, mais n'est-ce pas vendre son âme au diable ou je ne sais quoi, que de passer de la rue à la galerie. J'ai jamais eu la sensation de passer de la rue à la galerie. Je suis artiste, c'est mon métier, je gagne ma vie avec ça. Il se trouve que le fait de passer dans les galeries ne m'empêche pas de continuer à travailler dans la rue, que ce soit de façon autorisée ou non autorisée, monumentale ou petite dans un coin. Voilà, bon, c'est tout, je fais ça. Y en a... Ceux qui posent toutes ces questions ou ceux qui arrachent les murs pour les revendre sont hors sujet, quoi. Hélas, tant pis pour eux. Moi, je les vois, enfin, les artistes pour moi sont des frères. Ça, c'est mon côté peace and love. Non, ce que je veux dire, c'est marrant parce qu'on dînait au resto hier soir, on avait la même conversation. C'est-à-dire que dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le monde du graphe, les gens qui font des trains, qui s'enferment dans les entrepôts, dans les dépôts, qui s'enferment dans des immeubles pour pouvoir grimper au dernier étage, faire un truc sur le toit. Leur travail, travail d'ailleurs, eux-mêmes ne parleront pas de travail, mais ils utilisent souvent la bombe dans son sens étymologique, comme une arme, pour exprimer une haine, une colère, et aussi braver des interdits, alors par challenge personnel, pour se sentir exister, par volonté de montrer leur opposition à un système, à l'establishment, et aussi avec cette idée de compétition. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait, le toit qui est là-haut. Et ils se disent, en le faisant, ils se disent... Ouais, les autres, demain, ils vont le voir, ils vont avoir leur langue par terre. Je respecte, c'est pas mon truc, mais voilà. Je pense que dans le milieu de ce qu'on appelle aujourd'hui le street art, c'est un peu différent. Mais je pense que, comme dans tous les milieux, il y a des gens qui... On ne peut pas résumer la mentalité des gens à leur activité. Il y a des... Alors, il y a les bons chasseurs. Non, mais bon, bref. Mais c'est. Faudrait interroger tout le monde, chacun, pour savoir. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse absolument pas d'être. Compétition, quoi, d'ailleurs, quoi faire? Une fresque plus grande? Elle serait où, là? Quels seraient les éléments de la compétition? Je ne vois pas. Donc. Non, non, moi je fais je trace ma petite route depuis 30 ans. Vous savez, après, au bout d'un moment, moi je vais avoir 57 ans, j'ai une petite famille, j'étais enseignant, j'ai la chance aujourd'hui, tous les matins quand je me lève, je remercie la vie de pouvoir, de m'avoir permis de devenir artiste à plein temps, de gagner ma vie avec ça. J'ai vraiment plus, enfin, j'ai autre chose à faire que de, voilà, que des compétitions ou des jalousies ou des trucs comme ça. Alors il y en a parfois forcément, puisque quand on est artiste, on a forcément un ego. Parfois un peu plus démesuré que, quoique, hein, il y a aussi des boulangers et des garagistes qui ont des égos surdimensionnés. Mais ça joue davantage, puisqu'on se donne à voir, on se donne en spectacle, même quand on reste anonyme comme Banksy. D'ailleurs, c'est même un moyen de se donner en spectacle encore plus. Donc, forcément, dans ma dernière expo parisienne, qui s'appelait Décalage, il y avait un sous-titre, parce que toutes mes toiles étaient. J'avais joué sur les coulures. Et je disais, l'ego et les coulures, ça ne se discute pas. Voilà. Alors, la technique du pochoir, elle est vieille comme le monde. Et elle existait déjà dans les cavernes de l'homme préhistorique, quand il posait sa main sur la paroi et qu'il soufflait de l'ocre ou de la terre de sienne. Etc. Donc, c'est tout bête. Hein. C'est simplement tracer une forme, une image, un dessin sur un carton ou autre qu'on évide, qu'on découpe, et puis projeter de la peinture ou tamponner de la peinture avec une brosse. On fait ça à la maternelle. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on avait des petits pochoirs de fruits, de légumes, de lapins. Et donc, c'est tout bête. Et je revendique cette simplicité. C'est-à-dire que beaucoup de gens me disent, mais attends, t'es un artiste, tu utilises des photos dont certaines que tu ne prends pas toi-même. Avec Photoshop aujourd'hui, alors là, t'isoles les noirs, les blancs, les gris, je le fais tout de suite. Tu découpes, en étant un petit peu habitué à l'utilisation d'un cutter, au bout de 3 jours, chacun sera découpé, suivre les lignes sans se couper le doigt, et puis après, tu bombes à travers. Je dis, fais-le. C'est tout. Et donc, je revendique cette simplicité. Et je pense même que c'est même l'essence de mon travail depuis un certain temps. C'est-à-dire d'être une représentation frontale, simple, stylisée, de photos. Alors, il y a des photos que je fais, il y a des anonymes et tout ça, mais il y a aussi des photos de célébrités. Et tout à l'heure, je parlais de cette révolution pop, du rock, de tout ça. Et ce que je le répète à l'envi, mais je vais le redire à nouveau aujourd'hui, c'est vrai que ce que je fais depuis 30 ans sur les murs des villes, c'est exactement la même chose que ce que je faisais sur les murs de ma chambre quand j'étais adolescent et que je punaisais les posters de mes idoles. C'est pas plus compliqué que ça. Et à la limite, je pourrais même m'affranchir de toute la dimension, toute la peinture, pour faire des photocopies et les afficher. Ce serait presque... Puisque l'art est dans l'acte. L'art est dans la décision de le faire. Pour résumer, si vous voulez, j'ai déjà dit, mais la vie est pourrie. La vie est un truc impossible. On sait tous que c'est super compliqué, quoi. L'existence, ça serait, si c'était un truc facile, un long fleuve tranquille. Donc, on se démerde chacun pour essayer de faire en sorte de la passer comme on peut. Donc, il y en a qui vont se réfugier dans la politique, d'autres la religion, d'autres l'argent, d'autres le sexe, d'autres le travail, des fous de boulot. D'autres vont complètement perdre pied et utiliser des substances illicites pour oublier que la vie est une merde. Bon, bref, chacun fait comme il peut. D'autres sont persuadés que la vie, une fois qu'elle s'arrête, elle continue quand même. D'autres, l'inverse. On fait bien chacun comme on peut. Ma grand-mère disait, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Certains ont choisi la création artistique. Moi, je pense que c'est mon cas. C'est-à-dire que depuis que je suis gamin, je cours après un rêve, un truc. On cherche à s'échapper de l'existence. Alors on s'échappe avec les trucs qu'on nous donne. C'est vrai qu'on peut s'échapper en allant voir un match de foot, en regardant la télé ou en allant au resto ou avec des amis. On peut aussi, quand on est gamin, dans ce que je dis souvent, dans une petite ville de province, et qu'on voit ce qui se passe, alors sans internet, sans tout ça, mais qu'on voit quand même dans les 3 seules revues, parlant un peu de musique anglo-saxonne qu'on trouvait en France à l'époque, et puis dans quelques documentaires au cinéma, on peut rêver de trucs qui semblent se passer à New York, à San Francisco ou à Londres, et qui semblent un peu magiques. Et puis surtout, quand on est né dans les années 50, on est à une époque où naît également le tout premier mouvement de jeunesse. accompagné d'une le mouvement des Teddy Boys, accompagné de musique et d'un look de jeunesse populaire. Bien sûr, il y a eu les Azou avec Charles Trenet. Bien sûr, il y a eu le jazz, les Flappers, c'est-à-dire Fitzgerald et Zelda. Mais ça, c'était, on était dans les Roaring Twenties. C'était le jazz avec le Charleston, etc. Il y avait des looks, il y avait tout ça. Mais c'était une population qui n'était pas spécialement la jeunesse. C'était pas une population adolescente. Et c'était surtout une élite. C'était très circonscrit à des régions et des milieux sociaux. En Angleterre, dans l'Angleterre du Nord, dans l'Angleterre des ouvrières et populaires, naît ce mouvement des Teddy Boys, accompagné du rock et d'un look. C'est le tout premier truc. Nos parents n'ont pas connu ça. Il y avait les ados avant cette période-là, ils obéissaient aux parents et puis de toute façon, on travaillait, on était dans voilà, c'était une culture du travail et de la famille aussi, et tout ça. Et donc, les années 50 ont marqué avec le rock, a vraiment été une révolution incroyable. Et puis, ça a suivi avec ensuite les années 60, mai 68, le printemps de Prague, et puis la guerre du Vietnam, et puis tout ça. Et là, toutes ces choses-là étaient complètement nouvelles. Et les femmes se sont mises à travailler, et ont eu le droit de vote, et machin, et trucs. Enfin bon, l'après-guerre, ça a été un changement radical. Et donc, si vous voulez, la vie d'un seul coup, elle devenait. On pouvait rêver, quoi. On pouvait rêver d'ailleurs. Alors qu'avant, on faisait le métier que papa faisait. La plupart du temps, on restait au pays, on déménageait peu. Ou alors, si c'était quitter le pays, c'était pour aller partir d'Italie, pour aller bosser dans les. Ou descendre de Pologne, pour aller bosser dans les mines du nord de la France où j'habite, ou ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc. L'art, la littérature, le cinéma, c'est juste une façon de rendre la vie possible et de se lever le matin en se disant, voilà, j'ai un truc à faire aujourd'hui. Je suis musicien. J'ai toujours fait de la musique. J'ai joué pendant toutes les années 90, par exemple, j'ai pas tellement fait de peinture parce que j'étais en tournée, en studio, on enregistrait. Donc, j'ai fait beaucoup de musique. J'en fais plus depuis 2005. Le dernier groupe auquel j'ai appartenu, on est allé deux fois à Chicago, on est allé à Singapour, on a fait un album. Et c'était la musique traditionnelle irlandaise. Je jouais que du banjo, de la mandoline dans ce groupe-là. Et tous les gens avec qui je jouais étaient intermittents du spectacle, étaient musiciens professionnels. Avant ça, j'avais un duo qui s'appelait Open Road. On a fait deux albums, on a tourné aussi. Mais là, j'étais enseignant en même temps, donc j'avais les trois casquettes. Et puis, j'ai toujours joué de la musique. Hein, de ma première guitare, j'avais 12 ans, et toujours joué de la musique.
Donc, tu n'es pas un musicien
frustré ? Ah, non, je ne me sens pas du tout, non. Tout ça va ensemble. Après, de toute façon, la frustration. On a. C'est vrai que si on avait plusieurs vies, on se dit ouais, « j'aimerais bien aussi aimer faire du cinéma, j'aimerais bien écrire, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela. » Mais non. Alors après, les musiciens, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de musiciens qui se mettent à écrire des romans, qui se mettent à faire du cinéma, ou le contraire. Il y a plein d'actrices qui se mettent à chanter, pas toujours très bien, mais qui se mettent bon. Il y a aussi des gens qui... Charles Ely fait les deux, il a quand même eu besoin... En France, on aime bien les étiquettes aussi, on aime bien ranger les gens dans des tiroirs, donc il a quand même eu besoin de s'en aller à New York pour pouvoir faire de la peinture sans qu'on lui parle tout le temps de sa musique, quoi. Comme un avion sans ailes, ça l'a quand même ça l'a bien mais comme beaucoup de gens, c'est vrai que on aimerait bien tous avoir plusieurs vies, des journées de plus de 24 heures, etc. C'est un privilège de pouvoir dire ça. Ça veut dire qu'on ne s'ennuie pas, qu'on a des projets, qu'on a des idées, du talent ou pas, mais bon, qu'on a des envies et qu'on et la pêche pour les réaliser, quoi. Ouais. Voilà. Bon, enfin, après, je suis un petit musicien. Hein. J'ai pas jamais été. C'est pour ça que vous me connaissez davantage par rapport à ma peinture. Mais bon. Mais j'ai toujours fait quand même un peu de musique. Quoi. Pas tellement du rock and roll. Si, à une époque, mais toujours un peu acoustique. Quoi. J'aime bien les instruments en bois. Voilà. Je pense qu'effectivement, ce qui est très important, c'est de ne pas chercher à. Alors, une fois de plus, on revient à l'histoire de l'ego, là. Pas saturer l'espace, parce que ce serait dommage, quoi. Moi, je sais que dans les années 90, j'ai fait plus de musique, fait des enfants, on fait des tas de choses. Et puis, il y a aussi que l'espace était saturé. Alors, justement, les tags et tout ça ont vraiment... Donc, du coup, les forces de l'ordre nous ont davantage pistés, puisque dans ce qui s'est fait à cette époque-là, il y avait quand même un peu tout et n'importe quoi aussi, quoi, c'est vrai. Moi, ce que je, enfin, je sais pas comment ça va se passer. En ce moment, il y a une espèce d'engouement incroyable. Ça s'accompagne évidemment de tout le fric qui va autour de tout ça, c'est-à-dire le marché de l'art. Donc, j'en profite aussi. Hein. Enfin, je veux dire, moi, on m'a rappelé, parce que j'étais un des vétérans, je pensais que le pochoir, c'était mort et enterré dans les années 90. Et puis, deux personnages sont arrivés sur le devant de la scène. Un Américain, Shepard Fairey, alias Obey, et un Anglais, Banksy. Et ils sont arrivés au bon moment, de la même façon, je pense qu'on est arrivé au bon moment au début des années 80. Et donc au début des années 2000, 20 ans plus tard, ils ont démarré, Banksy, moi j'ai entendu parler de lui en 2002-2003, comme ça. Et il a fait une ascension fulgurante dans un marché de l'art qui était, c'était pile poil, voilà, c'était le bon endroit, le bon moment, la bonne personne, et puis un talent, un génie du contexte, enfin de l'art contextuel. Et bah, du coup, les galeries, le marché de l'art, etc., se sont accaparés le truc. Et puis on s'est dit, tiens, si on rappelait les anciens, quoi. Donc on m'a rappelé, et puis voilà, donc c'est super. Mais comment ça va évoluer? Moi, je crois beaucoup à... Il y a un truc quand même extraordinaire par rapport à l'époque où j'ai démarré, c'est l'existence d'Internet, qui maintenant efface absolument le temps et les frontières. Ce qui veut dire que vous faites un pochoir l'après-midi, vous le posez sur le mur de votre maison le soir, et le lendemain, la planète entière est au courant. On peut même vendre sur Internet, etc. Donc ça change tout, et ça, pour la musique aussi, et ça fait évoluer les techniques incroyablement. C'est-à-dire que moi, je vois des gamins, on me dit souvent, mais quel conseil vous donneriez aux jeunes ? Moi, je prends des tas de choses chez les jeunes. C'est-à-dire que de toute façon, j'ai toujours été persuadé qu'il n'y a pas les enseignants. Enfin, en français, c'est bien, parce que contrairement à l'anglais, en anglais, on a to learn et to teach. To learn, apprendre, to teach, enseigner. En français, on peut se contenter du verbe apprendre. Je t'apprends quelque chose et j'apprends de toi quelque chose. Et je pense que quand on apprend à quelqu'un, on apprend de quelqu'un. Automatiquement. Et si on n'essaye pas de faire ça, on se plante, puisqu'on on instaure une hiérarchie. Alors, il faut pas confondre le savoir, enfin la transmission du savoir, l'érudition, et puis l'enseignement. Quoi. Il faut que ce soit un partage. Donc, d'ailleurs, il faut toujours remettre. C'est Peter Ustinov qui disait, il faut chaque jour remettre en question ce qu'on vous a appris la veille ou ce qu'on vous a appris quand vous étiez gamin. Il ne faut rien prendre comme parole d'évangile. Et c'est incroyable, parce que c'est vrai que quand on est gosse, la parole de l'adulte, du parent ou de l'enseignant, on n'imagine même pas une seconde que ça peut être mis en question. Or, il faut vraiment apprendre. Moi, j'étais enseignant pendant un moment En début d'année, je disais à mes élèves, je vous signale, moi je vais vous parler que de trucs qui me passionnent, parce que le reste, je ne sais pas le faire. Alors même s'il y a des choses qui sont au programme et dont je devrais vous parler, j'essaierai, mais il faudra trouver un angle pour que ça m'intéresse, parce que sinon ça ne marchera pas. Et surtout, j'espère bien que vous allez m'apprendre plein de choses. Voilà. Et effectivement, on apprend les uns des autres. Donc l'avenir du street art, il appartient à ceux qui aujourd'hui ont 10-15 ans ou à ceux qui ne sont pas nés. Et il y en a qui inventent tous les jours des choses. Et grâce à Internet, ils communiquent, ils apprennent. Il y a un type, par exemple, on en parlait, là, Clet. Je ne sais pas si vous connaissez Clet, C-L-E-T. Je ne sais plus d'où il est, mais il est italien. Ouais. Il détourne les sens interdits. Il réussit presque quotidiennement à trouver une nouvelle idée avec ce rond rouge et cette barre blanche au milieu. Vous avez sûrement vu des images, etc. Il décline le truc, c'est un détournement de la signalétique urbaine, c'est extraordinaire. Parce que moi, ce qui m'a donné envie de travailler dans la rue, c'est aussi parce que chaque mètre carré de l'espace urbain, pour moi, est un tableau. Ernest Pierre-Ernest, à un moment, se baladait avec du gaffeur, enfin du chatterton, du scotch, de l'adhésif blanc. Et puis, il collait, comme ça, il faisait des rectangles sur un mur, sur un truc. Parce que tout ce qui est encadré devient œuvre d'art. Et c'est vrai, d'un seul coup, un mur, vous passez devant tous les jours, vous aurez même tendance à vous dire, oh, il ferait bien de ravaler cette façade et de repeindre ce mur qui est vraiment lépreux, complètement pourri. Et du jour où on décide que c'est une œuvre d'art. Regardez, regardez cette texture, regardez ces couleurs, regardez comme c'est différent d'hier et différent de demain, et comme c'est intéressant. Allez-y, on peut toucher, c'est super, ça a vécu. Regardez les strates, on découvre en dessous la couleur. Et voilà, donc à propos de strates, on pourrait aussi évidemment parler de Jacques Villeglay ou de Raymond Hinze et de tous ces gens qui ont travaillé sur l'affiche lacérée et tout ça, de Georges Rousse. Enfin bon, c'est sans fin, les gens qui travaillent in situ ou qui font un art dit contextuel. Et moi, je pense que l'avenir... c'est l'avenir de l'histoire de l'art, puisque ce qu'on vit avec cette histoire de street art, d'art urbain, c'est au-delà d'un mouvement d'art. Pour moi, c'est un phénomène. Les mouvements artistiques, dans l'histoire de l'art, du XXe siècle ou avant, parlons du pop art, de la figuration libre, des nouveaux réalistes, etc., c'était la plupart du temps quelques mecs dans un seul pays, la figuration libre. Combas, les frères Di Rosa, Boiron, Blanchard, ils étaient quoi? Ils étaient 10. C'est tout. Aujourd'hui, chaque minute de chaque jour, dans le monde entier, il y a des jeunes qui font des trucs sur les murs, qui vident des bombes à aérosol, qui collent des machins, qui font des trucs, connus, pas connus, qu'ils vendent pas, autorisés, pas autorisés, tous les jours. Et depuis, ça dure depuis plus de 30 ans, bientôt 40. Il n'y a pas eu de mouvement artistique aussi long, aussi important, engageant des artistes connus, des artistes inconnus, et surtout dans l'espace public, c'est-à-dire gratuitement, et non pas confinés dans des galeries ou dans des musées. Les grands mouvements d'art, quand on pense aux performances de Klein ou ces gens-là, on voit des photos, ils étaient une vingtaine dans une salle, voilà, même Boys et tout ça, finalement, ça, qui est au courant? Aujourd'hui, n'importe qui descend la rue d'une grande ville ou même d'un village va voir des trucs sur les murs. Donc l'avenir appartient à ça, parce que c'est hors mur, parce que c'est le marché de l'art l'accapare, mais il y aura toujours des choses gratuites et rebelles, et parce qu'Internet permet de communiquer. Donc je ne sais pas sous quelle forme ça se passera dans 10, 20, 1000, mais voilà. Ce qu'a écrit Amélie Nothomb dans mon bouquin, Elle me l'a dicté au téléphone, en plus, c'était assez incroyable. Et donc j'étais là en train d'écrire. Alors, elle a utilisé mon nom pour être gentille avec moi, mais elle a dit, on dit Jeff Aerosol, dans 1000 ans, ce sera Lascaux. Vous imaginez, sous la dictée de... Donc changeons ça et disons, l'art, dans l'art de rue, dans 1000 ans, ce sera Lascaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se choque d'un tag sur de la vieille pierre, ou comme je l'ai été, scandalisé, à Lisbonne, dans le Bairro Alto, de voir tous ces magnifiques carrelages recouverts de tags. Mais dans 500 ans, ce seront peut-être les tags qui auront cette valeur. Ah, j'en ai trouvé un, ils seront là. Bon, Banksy est très fort pour faire des images, d'ailleurs, pour illustrer ce genre de choses. On ne sait pas. Les strates, le patrimoine, c'est quoi? Le patrimoine, il est toujours... On parle du patrimoine, de ce qui a eu lieu avant, mais ce qu'on fait aujourd'hui, ce sera du patrimoine dans... Voilà. Et donc, ce sont des strates. Et puis, on va fouiner pour essayer de retrouver les strates les plus anciennes, mais il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'on accorde plus d'importance à des choses qui datent de l'Antiquité, simplement parce que c'est plus rare, c'est plus ancien, et qu'on a peur que ça disparaisse. Mais est-ce que ça a plus de valeur qu'un coup de bombe sur un mur d'aujourd'hui? Dans l'absolu, c'est une question. Et en même temps, il ne faut pas que les strates tuent les strates précédentes. C'est-à-dire que la vie, chacun d'entre nous et le monde, c'est comme un arbre avec tous ces cercles dans, comment ça s'appelle, ces lobiers, c'est quoi, je sais, je suis pas très doué en... Mais donc quand vous coupez un arbre, vous avez tous ces cercles concentriques. Chaque cercle correspondant à une année ou à bon. Si vous réussissez à en extraire un pour l'éradiquer, l'arbre va mourir. Donc, c'est comme les gens qui disent, qui ont été très amoureux, qui se sont séparés, qui disent, je ne veux plus entendre parler, c'est un truc, j'ai oublié, j'ai rayé ça de mon existence. Je dis, ah non, je suis désolé, tu peux pas. Tu peux le dire tant que tu veux, mais non, tu ne peux pas rayer, ça a existé, point, ça a existé. Et ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais en fonction de ça. Même si le fait que tu dises que c'est rayé de ton existence, c'est une l'attitude que tu prends parce que ça a existé. Sinon, tu n'aurais pas besoin de le dire que ça n'a pas existé. Donc, faire une peinture sur un mur, le mur derrière, il a existé. De toute façon, pour que la peinture retienne, il faut qu'il y ait le mur derrière. Et le mur, il y a eu d'autres choses dessus. Et c'est aussi intéressant que ce que... Voilà, chaque strate est aussi intéressante que l'autre, quel que soit son âge. Ah, une anecdote. Ah, on peut citer celle que je racontais hier soir. Alors, en fait, c'était à Lyon. J'avais été invité à exposer sur une péniche. Et c'était une manifestation un petit peu, pas mondaine, mais enfin bon, il y avait des petits fours, il y avait du champagne, c'était un vernissage en bonne et due forme, etc. Et puis, au bout d'un moment, j'avais mon petit sac plastique avec des pochoirs peint sur du papier. Je travaille sur... quand je me déplace comme ça, je ne trimballe pas tous les pochoirs et les bombes. Donc, surtout quand je prends l'avion, par exemple. Et donc, je peins sur de la nappe. Vous savez, les rouleaux de nappe blanche que vous achetez. C'est un papier très fin. Je peins mes pochoirs, je découpe la forme. Et j'ai, dans une petite bouteille d'eau minérale, je mets de la colle à papier peint. Et puis, j'ai ma brosse ou mon gros pinceau. Et tout ça dans un petit sac plastique. Et au vernissage, au bout d'un moment, ça me saoulait un petit peu. Et je m'éclipse discrètement, je me dis je vais aller coller quelques trucs là sur les hauts de la Croix-Rousse ou bien sur les quais du Rhône. Et puis il y a deux des petites nanas qui organisaient l'expo, donc, qui étaient là, très, avec leur petit sac à main et tout ça, très, très jeune fille, un peu BCBG, très gentille, hein, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Et qui me disent, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Je dis, ouais, je vais... Et puis elles ont compris, tu vas coller des trucs. Je dis, ouais, on peut venir avec toi. Je dis, bon, c'est souvent quand je fais ça, c'est plutôt seul. Moi, je suis pas... voilà, je pars pas en mission avec tous les copains. Mais bon, allez, venez, venez. Oh, trop génial. Donc, elles viennent avec moi, avec leur petite jupe plissée, leur petit talon haut, et leur sac Longchamp. Et puis, sous un pont le long du Rhône, voilà, je colle Jimi Hendrix, assis, et mon petit sitting kid, voilà, dos à dos, petit gamin assis que je fais tout, partout. On colle ça, puis on continue, on marche. Et là, sirène de flic, truc qui arrive à fond de train, qui s'arrête, les mains sur le capot. Enfin, deux flics et une fliquette, et qui me disent, monsieur, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous n'avez rien sur vous d'interdit. Je dis, je ne crois pas. Il commence à me fouiller, etc. Puis je vois, en moi-même, je souriais. Alors, ça depuis toujours, on me dit, mais t'as pas eu de problème avec les filles, t'as pas eu de procès, t'as pas eu d'amende en 30 ans. Donc, ce genre d'épisode, ça s'est passé très souvent. Mais moi, déjà, ce que j'expliquais hier soir, première chose, c'est que ils vont arriver, je vais leur faire un grand sourire, je vais tendre la main, par exemple. Alors là, déjà, ils ne savent plus. Ils me disent, mais vous n'avez pas de bombe de peinture dans vos poches? Je dis, ah, non, je vais vous montrer. Regardez, j'ai des choses faites à la bombe de peinture, à mon atelier. Et puis alors là, les deux filles, mais c'est déjà fait aérosol, vous ne connaissez pas déjà. Il expose là, à la péniche. Mais venez à l'occasion, venez, prenez le catalogue. Et donc, ça commençait à agacer un peu les flics. Et, et puis, oui, donc je leur explique, regardez, c'est du papier, voilà, je suis artiste peintre, je travaille mon travail. Alors, il faut aussi parler bien, voilà, d'un seul coup, si on fait quelques efforts de verbe, ça le désarçonne beaucoup. Donc oui, mon travail s'inscrit sur toute une démarche par rapport au tissu urbain, et si vous voulez, donc là, regardez, alors je vous explique, là, donc je peins sur, ils peuvent plus en placer une, ils sont très désarçonnés, je peins sur du papier, je découpe, je colle, et voilà, c'est... Mais donc c'est vous qui avez, parce qu'on nous a appelé là, on vient de nous appeler qu'il y avait un tagueur sous le pont là. Je dis, ah bah écoutez, si, des salauds qui avaient, enfin des salauds, des gens qui ont appelé les flics parce que je venais de coller des images sous le pont. Voilà. Et des gens qui ont que ça à faire. Et donc je leur explique, oui, on vient de coller en face de la péniche où l'exposition que les jeunes filles évoquaient a lieu. On va aller voir sur place. Dis, bien sûr. Alors on monte dans la, on était quand même à 500 mètres, on remonte dans la voiture de flics, ils font demi-tour. Et là, il y a le portable d'une des petites qui sonne. Et alors là, c'était un moment, j'aurais voulu avoir une caméra. J'étais, ah, Béné, salut, t'imagineras jamais. Je suis dans une bagnole de flics, on s'est fait avoir par les flics. Je suis avec Jeff Aerosol, on vient de faire un pochoir. On est dans une voiture de police. C'est trop génial. Et alors là, les flics qui savaient plus, qui étaient complètement, je les voyais, qui étaient là, qui étaient décontenancés. Et juste avant, oui, et là on arrive devant le truc, on descend, donc c'est bien vous qui avez fait ça. Je dis, bah oui, on vous a expliqué, bien sûr. Et là, une des petites qui pose son sac à main, machin, et c'est les flics qui disent, faites attention, on risque de vous piquer votre sac, mademoiselle. Puis alors, ils regardent, et il y a la fliquette qui regarde les deux autres, puis qui leur dit, c'est pas mal. Hein. Et là, ils m'ont dit, écoutez, donc c'est de la colle. Je dis, oui. Sur la Croix-Rousse, là-bas, il y a pas mal de vieux trucs, il y a des palissades, tout ça. Allez donc sur la Croix-Rousse. Donc, ce sont les flics qui m'ont indiqué à quel endroit je pouvais aller coller. Donc, je trouve que c'est une anecdote plutôt sympa. Mais qui est révélatrice aussi de la réaction des gens quand ils comprennent pourquoi on fait les choses et ce qu'on fait. Et qui explique aussi quelle est ma démarche. Justement, mon travail, n'est-ce pas, sur le tissu urbain, de là. Voilà, donc c'est-à-dire que l'objectif, pour moi, l'objet de mon travail, c'est pas du tout de prendre une bombe aérosol puis d'aller faire n'importe quoi sur n'importe quel mur, n'importe comment. Ça a duré 6 mois, ça. Je l'avoue, je le confesse. Les 6 premiers mois, dans cette période encore un peu punkoïde qu'était le début des années 80, et où le délice du délit l'emportait, je l'avoue, parfois sur le... Voilà, sur l'art avec un grand A. Mais bon, j'espère continuer. Enfin, je dis art avec un grand A, mais justement, je pense que depuis 30 ans, je cultive le fait de pratiquer l'art avec un petit A. Voilà. Et je pense qu'il faut dédramatiser l'art, ouvrir tous les musées, qu'ils soient gratuits pour tout le monde, de même que toutes les médiathèques, qu'il faut... Vous allez partout dans le monde et vous voyez des gens qui font la queue devant les grands musées. C'est impossible de pouvoir improviser une visite de musée. Il faut décider, parce que vous allez à Madrid, parce que vous allez à Barcelone, parce que vous allez à Saint-Pétersbourg, parce que bon, à New York, il faut, comme si vous aviez idée avant votre voyage, tel jour, à telle heure, j'irai voir tel musée. Alors que s'il fait beau ce jour-là, ce serait peut-être plus sympa d'aller faire autre chose. Et puis bon, et vous allez là, et vous faites la queue pendant des heures. Et les gens font la queue pendant des heures devant le Prado, devant le Louvre. Et devant le Louvre, les gens qui viennent du monde entier, qui sont parfois à Paris juste pour 3 jours, ils vont bousiller une demi-journée pour rentrer au Louvre, aller directement voir la Joconde et repartir. À Madrid, ils iront voir Guernica et ils repartiront. C'est révélateur d'un truc qui ne va pas. Et si la Joconde, personne n'en avait jamais entendu parler, et qu'on l'accrochait sur un mur, comme ça, dans une banlieue ou dans le vieux Bordeaux, les gens passeraient devant, ça se trouve, ils ne se retourneraient même pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup d'être tous venus aujourd'hui. Et puis, écoutez, j'espère que vous ouvrez les yeux quand vous baladez dans la rue et que vous avez un petit sourire parfois, une émotion à d'autres fois, du dégoût forcément de temps en temps, mais que... Il faut militer pour que les maires de nos villes, etc., comprennent que la vie de la ville passe aussi parfois par des choses qui ne sont pas forcément super propres, super organisées, clean, et les mêmes dans toutes les villes. Voilà. Merci.